Bonsoir, les agents publics de la République démocratique du Congo toucheront leur salaire de mars à la fin du mois d'avril. C'est ce qui ressort du dernier conseil des ministres. Le gouvernement de la RDC justifie ce report par une faible mobilisation de recettes par rapport aux prévisions attendues pour ce premier trimestre de l'an 2023. Les arriérés de salaire causés par ce report de mars représentent une enveloppe de 250 milliards de francs congolais. Qu'est-ce qui a pu causer cette faible mobilisation de recettes pour ce premier trimestre? Comment remettre les choses dans l'ordre et éviter qu'une pareille situation ne se reproduise? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec Emmanuel Mukundi, député national, membre de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale et professeur à la faculté des sciences économiques et des gestions de l'Université de Kinshasa. Emmanuel Mukundi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Mais également Fidel Kiangi, bonsoir. Fidel Kiangi qui doit nous rejoindre dans cette émission, il est président de l'intersyndicat national de l'administration publique. Et enfin Valérie Madianga, directeur général du centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDL en sigle. Valérie Madianga, bonsoir.
Bonsoir monsieur le journaliste.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Les agents publics de la République démocratique du Congo toucheront leur salaire de mars à la fin du mois d'avril. C'est ce qui ressort du dernier conseil de ministres. Le gouvernement justifie ce report par une faible mobilisation de recettes par rapport aux prévisions attendues pour ce premier trimestre de l'année 2023. Les arriérés de salaire causés par ce report de mars représentent une enveloppe de 250 milliards de francs congolais. Une problématique que nous éclaire ici Guy Maté et Cynthia Bachizi.
Bonsoir Cynthia Bachizi.
Bonsoir Guy Maté.
Cynthia, comment peut-on expliquer une telle situation?
Quelques explications, Guy, proviennent du compte rendu du dernier Conseil des ministres. D'abord, une faible mobilisation des recettes au cours du mois de mars 2023 à hauteur de 1,381 milliards de francs congolais, soit 46% des assignations seulement. Alors, de ce montant, 631 milliards de francs congolais ont été affectés aux rémunérations. Ceci est dû au paiement au cours du mois de mars de la solde de rémunération du mois de février 2023 et une bonne partie du mois de mars 2023. Et c'est ainsi que près de 250 milliards de salaires ont été reportés pour être payés à la fin de ce mois d'avril. Parmi les autres dépenses exécutées ce mois, il y a 30 millions de dollars américains qui ont été mis à la disposition de la CENI au titre d'acompte à sa première dotation de l'année 2023 et les dépenses exceptionnelles sécuritaires quant à elles qui représentent en cumul annuel plus de 623 milliards de francs congolais.
D'aucuns qualifient l'état des finances publiques actuelles de paradoxal dans ce sens que le budget a quasi triplé au regard des années passées. De 5 milliards, nous sommes passés à 16 milliards, Cynthia Bachizi.
Tout à fait, dit Maté. D'ailleurs, pour beaucoup d'analystes, cette situation peut sembler non seulement paradoxale, comme vous l'avez dit, mais surtout incompréhensible, car la paye 2023 des agents de l'État ne peut pas, en principe, dépendre d'une mobilisation des ressources d'aujourd'hui. Le budget actuellement exécuté a été fait en 2022 et normalement, les ressources qui doivent être mobilisées pour payer en 2023 le sont en 2022. Là, nous sommes donc dans une situation où le gouvernement semble ramé, souligne un expert, mais cela s'explique par plusieurs raisons. Le poste frontalier, par exemple, de Bounagana, qui mobilise beaucoup de recettes, n'est pas en activité. Il y a aussi beaucoup d'activités économiques qui sont bloquées dans l'est du pays. Mais cette situation va se normaliser à la fin de ce mois d'avril 2023, qui est l'échéance fiscale annuelle. C'est ce que nous dit une source digne de foi.
Comment sortir de cette situation? Quelles sont les pistes des solutions envisageables pour que pareille situation ne puisse plus se reproduire?
Alors, dit au-delà de la situation sécuritaire exceptionnelle dans laquelle le pays est plongé, situation qui impacte donc la santé des finances publiques. Après avoir échangé avec plusieurs analystes du domaine, il faudrait en amont avoir un contrôle plus rigoureux de la masse salariale étatique et de toutes les autres dépenses publiques qui explosent, hein, avec des institutions publiques qui sont budgétivores. C'est vraiment le talon d'Achille actuel des finances publiques en RDC. D'ailleurs, cette préoccupation est partagée de part et d'autre, aussi bien par le gouvernement que par les organisations de la société civile. Rappelez-vous que Nicolas Kazadi, ministre des Finances, avait annoncé au mois de mars dernier que la RDC avait opté pour la suspension de la dette publique antérieure. Cela pour faire face à l'évolution qu'il avait qualifiée préoccupante de dépenses publiques. Nicolas Kazadi avait précisé lors de la 87e réunion du Conseil des ministres que les dépenses publiques au cours du mois de janvier 2023 avaient occasionné un déficit de 496 milliards de francs congolais. Il nous faut donc une rationalisation des dépenses publiques.
Merci Cynthia Bafizi et bonne soirée.
Merci beaucoup Guy Naté.
Emmanuel Mukundi, député national, membre de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale et professeur à la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kinshasa. On en est donc là à des arriérés ce mois de mars pour les agents publics de l'État de la République démocratique du Congo. Une situation qui n'était plus arrivée au pays depuis de nombreuses années. Le gouvernement donne entre autres raisons, ou la raison qui est ressortie, c'est la faible mobilisation des recettes, mais dans cette analyse de la problématique, on entend bien beaucoup d'autres raisons qui peuvent expliquer cette situation. Vous qui êtes membre de l'Assemblée nationale, contrôleuse du gouvernement, quelle est la vraie raison qui nous a entraînés dans cette situation d'arriéré pour le mois de mars 2023?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'abord, de nous avoir associés à ce débat républicain qui a un caractère pédagogique, comme je l'ai toujours dit. Je salue aussi mes deux co-débatteurs. Je voudrais, avant toute chose, commencer par dire que c'est de manière hâtive que le gouvernement peut répondre de cette manière-là. L'incapacité de mobiliser les recettes, du côté des recettes, ou le déficit au niveau des frontières de Bunagana, à l'Est, où du côté des dépenses, on voit le 30 millions de dollars, n'est-ce pas, alloués à la CENI, c'est moindre comme réponse. C'est facile à donner comme réponse. Pourquoi? Parce que, en principe, c'est le mois de mars où le grand des entreprises, n'est-ce pas, renfloue les caisses de l'État. Donc, à partir du moment où l'État n'est pas en mesure de mobiliser les recettes au mois de mars, je vous dis, ça sera catastrophique pour les autres mois. Parce que au plus nous montons avec le mois, plus les recettes diminuent. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier trimestre, les recettes vont diminuer. Donc c'est une manière fausse de pouvoir répondre à cette question.
Alors, vous, justement, qui êtes l'institution contrôleuse de l'État...
Je voulais d'abord asseoir ce que le gouvernement donne comme raison.
Allez-y.
Lorsqu'on parle de Bunagana, en fait, la guerre de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, j'ai commencé le travail dans le secteur de l'État en 2001, et depuis 2001 jusqu'à cet événement malheureux, j'ai touché toujours comme professeur avant le 25 du mois. Alors que la guerre existait déjà, il y avait des moments où Bunagana était pris, et Kassindi était pris, et même beaucoup d'autres frontières. Donc là, ce n'est pas une raison qu'il faut... accepté de la part du gouvernement. Moi, je voulais vous dire, monsieur le journaliste, il faut quand même que les gens sachent, et le gouvernement en premier, que le salaire, c'est un prix à payer pour le travail que la population, que les ménages offrent au gouvernement. Et donc, on ne peut pas s'amuser comme ça d'emblée, on dit on reporte le salaire. Non, pas du tout. Les salaires, ça constitue un revenu pour le ménage, c'est-à-dire le moyen qui permet au ménage de survivre, de payer les minéraux des enfants, de payer les soins médicaux.
Alors, vous réfutez les arguments du gouvernement. Alors, selon vous, quelle est la raison ou quelles sont les raisons qui ont amené à cette situation?
Je le réfute. Il faut placer les choses dans la conjoncture et les placer aussi dans la structure. Donc, du point de vue structurel, c'est depuis très longtemps, plus de 5 ans déjà, que ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui on en parle, c'est parce que nous sommes dans une situation où ça arrive à Kinshasa. Ceux qui sont à l'intérieur sont payés 45 jours après. ceux qui sont à l'intérieur sont payés 60 jours après. Donc ça, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème structurel. Donc, s'arrêter au problème conjoncturel, moi je pense que c'est faux. Qu'est-ce qui fait que l'intérêt soit payé en retard? Vous avez les mauvais états de route. Ces mauvais états de route ne permettent pas aux banques ou aux agents payeurs de pouvoir accéder les lieux où il y a des travailleurs de l'État pour qu'ils soient payés à temps. Vous avez le non-respect des engagements de l'État. L'État qui a promis, par exemple, prenons les professeurs d'université. L'État a promis qu'il augmenterait les salaires et qu'il dit à ces professeurs-là qu'ils doivent attendre jusqu'à ce qu'on va réaménager et récomposer les salaires pour pouvoir les payer de la manière décente. Et jusqu'à aujourd'hui, les professeurs restent impayés. Donc s'arrêter seulement à ces causes-là, moi je pense que c'est une manière simpliste à faire les choses.
Tout à fait, mais quelles sont les causes alors, selon... selon vos analyses, et vous êtes enseignante d'université qui connaissez bien les sciences économiques, d'après vos analyses et selon ce que vous connaissez de ces sciences liées à l'argent, qu'est-ce qui explique l'arriéré du mois de mars qui est reporté pour avril?
Effectivement, je dis, pour la province, j'ai donné les causes structurelles. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Si vous êtes chez moi à Nyonzou, par exemple, parce que vous m'avez présenté comme député national de Nyonzou, chez moi à Nyonzou, les enseignants touchent 45 jours, 60 jours après. Pourquoi? Parce que les agents économiques doivent quitter Kalemi.
Oui, ça vous l'avez déjà dit. Kalemi. Mais vous n'avez toujours...
À Nyonzou et aller partout ailleurs.
Emmanuel Mukundi...
Les causes conjoncturelles. Je vais vous donner maintenant là, les causes conjoncturelles.
Oui, il faut y aller parce que l'émission, on a très peu de temps pour beaucoup d'arguments.
Les caisses de l'État sont vides aujourd'hui, c'est ça la vérité. Les caisses de l'État sont vides parce que les hautes institutions ont mal dépensé. Ils ont dépensé de manière irrationnelle le mois de décembre et le mois de janvier pour des fêtes. Et par conséquent, vous avez remarqué, à un certain moment, il y a eu des prestations de la monnaie nationale, il y a aussi l'inflation. Pourquoi l'inflation? Parce que les gouvernements, au mois de décembre et de janvier, pour financer des dépenses oisives, ont appliqué la planche à billets. Et par conséquent, en appliquant la planche à billets, la valeur de la monnaie a baissé, les prix sur le marché ont augmenté. Alors, il y a cette phobie-là. De dire aujourd'hui...
Est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Parce que c'est bien beau d'affirmer que l'une des raisons, ou la seule des raisons, pourrait être la mauvaise gestion, les mauvaises dépenses. Il y a des dettes publiques qui sont payées. Il y a Bounagana qui n'appartient plus à l'État congolais. Il y a 30 millions de dollars affectés à la CENI pour l'organisation des élections, ce qui n'avait pas été le cas les mois passés. Il y a aussi l'effort des guerres. Quels sont les éléments chiffrés que vous avez pour nous l'expliquer?
Vous m'avez mal compris, monsieur le journaliste. J'ai dit la cause réelle aujourd'hui, les caisses sont vides.
Oui, vous avez expliqué que c'est les dépenses, les mauvaises dépenses de janvier et de février. Est-ce que vous pouvez donner les chiffres pour l'expliquer?
Est-ce que vous pouvez me laisser continuer?
Allez-y.
Donc, les caisses sont vides par une mauvaise manière de dépenser. Donc, les affectations irrationnelles des dépenses qui ont été utilisées principalement pour les autres institutions de la République. Et la preuve, quand vous me demandez la preuve, c'est clair, l'économie a des signaux. Pourquoi vous avez constaté que la monnaie s'est dépréciée? Parce que le gouvernement a utilisé la planche à billets. Les chiffres sont là, vous n'avez qu'à vérifier à la Banque centrale. Alors, mais moi, ce que j'attise, ce que je réfute, c'est le fait de dire que on a dépensé pour payer la dette, on a dépensé pour payer la CENI en mettant à côté les dépenses des salaires. Ça, c'est une mauvaise gouvernance.
Et Emmanuel Mukundi, est-ce que ça signifie aussi que le gouvernement de la RDC a trompé le peuple en mettant en avant de confortables recettes réalisées par les services de l'assiette et un budget confortable pour les années à venir? Est-ce que tout ça, c'était faux? La réalité nous a rattrapés ou pas?
Moi, je crois que j'allais là-bas. C'est parce que vous m'interrompez.
Non, allez-y directement à l'essentiel, s'il vous plaît, cher professeur. On n'a pas tout le temps.
Je parlais même de mensonges gouvernementaux. À partir du moment où on saute de 5 milliards à 16 milliards, normalement, la première des choses qui doit être vue, c'est l'augmentation des salaires. La première des choses. Et on ne peut pas me dire que non, les paies de recettes qu'on a, on a payé la CENI, les paies de recettes qu'on a, on a payé la dette. Je vous dis, monsieur le journaliste, dans la gestion moderne de dépenses de l'État, la priorité des priorités reste la rémunération des agents de l'État.
Mmh. Emmanuel Moukoundi, malheureusement, c'est un débat et je suis obligé de relancer et ça va continuer comme ça. Il faut qu'on aille aussi à l'essentiel. Mais vous êtes en même temps député national, donc membre de l'organe de contrôle du gouvernement. Comment le gouvernement a-t-il pu mentir le peuple et que l'Assemblée nationale ait accepté ce mensonge et n'ait rien dit, n'ait rien fait, ait validé un budget faux et qui n'existe nulle part?
Je crois que sur votre chaîne de la radio Capi, juste après le vote du budget, je vous avais dit comme averti. Je vous avais dit ce qui est en train de se passer n'est pas économique, c'est plutôt politique. Le chiffre que le gouvernement présentait, c'était un chiffre politique et non économique. D'autant plus que la réalité économique ne pouvait pas démontrer que, en moins d'une année, on pouvait sauter de 5 milliards à 16 milliards. Mmh. Et vous me posez la question comment le Parlement a accepté ça. Vous devez savoir que le Parlement d'aujourd'hui, c'est un Parlement qui est au service, je dois le dire, le Parlement qui est au service du gouvernement. À partir du moment où l'opposition donne la vraie voie, montre là où nous allons, ce n'est pas bon. Mais bon, puisque le gouvernement est le nôtre, on laisse passer et alors ça passe. Et les conséquences, je vous avais dit autrefois que les conséquences, on le verra dans le temps. Et aujourd'hui...
On est en train de voir les conséquences.
Vous donnez raison.
Merci Emmanuel Moukoundi, on reste avec vous dans ce débat. Valérie Madianga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Vous venez d'entendre l'analyse et les explications d'Emmanuel Moukoundi, député national et professeur d'université. Est-ce que c'est cela aussi vos explications?
Oui, merci beaucoup pour la question. Ce que je pouvais dire, l'honorable a bien parlé, il a expliqué la situation. Comme vous le savez, la loi de finances 2023 a un problème de crédibilité dans ses prévisions, dans les recettes, tout comme dans les dépenses. Donc, c'est ça le vrai problème d'abord, dès que nous aurons à résoudre les problèmes de crédibilité budgétaire. Après ça, nous pourrons voir la question de rémunération. Deuxième problème que j'ai pu épingler, je pourrais dire que le salaire a un caractère alimentaire. Lorsque on reporte, il y a des milliers de familles qui souffrent. Alors, lorsque vous regardez la trajectoire des dépenses, en 2022, on avait aligné les dépenses de rémunération autour de 3,1 milliards de dollars. Et à la fin de l'exercice, le gouvernement a exécuté les dépenses de rémunération à hauteur de 3,5 milliards. Donc, il y a eu un dépassement de 465 millions de dollars. C'est pour vous dire que nos prévisions ne sont pas crédibles ni sincères. Et lorsque vous regardez aujourd'hui les prévisions de 2023, on a calqué les prévisions de 2022 à fin décembre de 3,5 milliards. Et maintenant, dans la mise en œuvre, on a gonflé les effectifs et on a un déficit de 30 millions de dollars par mois pour les dépenses de rémunération des fonctionnaires et agents publics. Lorsque maintenant nous revenons sur les recettes sont faiblement mobilisées, on n'atteint pas la moyenne. Les prévisions linéaires d'environ 3,5 milliards de dollars qui devaient être mobilisées à fin mars, on n'en a pas atteint. On a mobilisé pratiquement la moitié.
Valérie Madianga, le gouvernement a communiqué pendant de nombreux mois des réalisations exceptionnellement avantageuses de mobilisation de recettes. Nous avons à ce moment-là questionné de nombreux experts qui n'ont pas contredit le gouvernement. Sur base de quoi, ce soir, vous affirmez que les recettes ne sont pas suffisamment bien mobilisées? Avez-vous des chiffres?
Effectivement, ce sont des chiffres que je suis en train de présenter. Au premier trimestre déjà, nous avons déjà la tendance. On a mobilisé pratiquement la moitié des prévisions linéaires qui sont pratiquement au-delà de 3,5 milliards. Et nous sommes pratiquement à la moitié. La réalité, elle est là. C'est pourquoi nous disons que le budget de l'État actuel n'est pas crédible. Nous sommes passés des recettes de 5 milliards à 15 milliards sur le plan interne. Mais on ne le sent pas lorsqu'on mobilise.
Lorsque le gouvernement en 2022, mi-2022, fin 2022, annonçait des recettes, des mobilisations confortables des recettes, est-ce que c'était crédible à ce moment-là ou pas?
Non, mais il faut savoir qu'il y a eu des contentieux en termes de fiscalité avec les entreprises minières qui ont reversé beaucoup d'argent au gouvernement. Mais lorsque vous regardez, toutes les mesures fiscales ne sont pas appliquées. Donc, lorsque vous regardez tous les budgets de notre pays, vous avez l'impression que ce sont les mêmes mesures qui reviennent, mais on ne les applique pas. Cette année, lorsque vous lisez très bien le compte rendu du Conseil des ministres, le ministre des Finances l'a dit que pour améliorer la tendance, il compte sur le dénouement de tout ce qu'il y a comme contentieux avec les sociétés minières ainsi que d'autres qui travaillent avec la DGI, la DGDA ainsi que la DGRAT. Ce qui ne permet pas à ce que nous puissions également projeter de dépenses qui tiennent compte de nos moyens. Aujourd'hui, nous avons des dépenses qui sont au-delà de nos moyens.
Mais est-ce qu'il est tout de même possible que le gouvernement ait fortement bien mobilisé les recettes et que le budget de 16 milliards soit un budget tout à fait crédible, mais plutôt que ce soit les dépenses qui aient mis le gouvernement dans la situation difficile d'avoir des arriérés qu'on constate aujourd'hui? Est-ce que c'est possible que les 30 millions et plus affecté à la CENI depuis un moment, que les efforts de guerre, que le fait que les recettes de Bounagana et autres points de collecte ne soient plus à disposition de la RDC, que cela puisse avoir eu de l'effet sur la paye en discussion en ce moment?
Non, moi je pense que pour l'instant, vous vous souvenez, en 2016, nous étions dans la même situation. Le gouvernement n'était pas en mesure de mobiliser les prévisions telles que arrêté dans la loi de finances. Le gouvernement Matata avait présenté un collectif budgétaire. Aujourd'hui, le gouvernement ne doit pas avoir honte. Il faudrait faire en sorte qu'on nous présente un collectif budgétaire pour réduire ces prévisions qui sont, à mon avis, irréalistes. Même si on a appliqué tout ce qu'il y a comme mesure arrêtée dans la loi de finances, il nous serait difficile d'arriver à 15 milliards. Même si nous attendons la fin du mois d'avril où nous avons un peu plus de recettes, moi je doute très fort que nous puissions réaliser tout ce qui a été prévu dans le cadre de la loi de finances 2023. Donc je recommande que l'on puisse élaborer rapidement un collectif budgétaire pour voir qu'est-ce qui est faisable dans le cadre de la loi de finances 2023, parce qu'il y a beaucoup de dépenses. On a gonflé pratiquement toutes les dépenses des institutions fois deux, ça a doublé. Si vous regardez la trajectoire de 2020, 2021, 2022 et 2023, c'est pratiquement passé à fois deux. Les dépenses d'investissement continuent à souffrir parce que c'est ce qui est d'abord pour nous la priorité. Il faut qu'on puisse payer plus les investissements. Les rémunérations sont des dépenses contraignantes. On doit les payer. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est mobilisé, regarder la tendance et projeter la loi d'un collectif budgétaire pour nous permettre d'exécuter ce que nous pouvons par rapport aux moyens qui entrent dans les caisses de l'État. Deuxièmement, il faudrait également qu'on puisse respecter le pacte de stabilité monétaire signé entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Parce que toutes les dépenses actuellement passent par des voies qui ne sont pas régies par la loi relative aux finances publiques. Donc la chaîne de la dépense n'est pas respectée. Si vous regardez les rapports de la Cour de comptes, la Cour des comptes revient tout le temps sur ça. Au mois de janvier, le président de la Cour des comptes a écrit une lettre au Premier ministre pour lui demander qu'on puisse arrêter avec la violation de manuel des procédures et des circuits de la dépense publique. Donc, ce sont des problèmes graves qui ne nous permettent pas à ce que la loi qui est votée par le Parlement soit respectée au niveau des institutions.
Merci Valérie Madianga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local, créé FDL en sigle. Valérie Madianga, notre émission prévoit aussi la participation du public et donc de nos auditeurs. Je vous invite à écouter le commentaire de cet auditeur, ensuite vous donnerez votre commentaire. Isaac, qui nous écrit, dit « Il n'y a que le coulage des recettes et des détournements qui peuvent occasionner une telle situation. Il n'y a pas eu de circonstances particulières pouvant empêcher une mobilisation suffisante. Ça, c'est Isaac qui s'exprime. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, le coulage des recettes, on en parle. On en parle depuis des années, on en parle. Mais aujourd'hui, nous devons faire en sorte que qu'on puisse crédibiliser notre budget. C'est-à-dire les prévisions des dépenses et des recettes doivent refléter la réalité des terrains. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'enquête. Les statistiques ne sont pas actualisées. Et puis, on a des situations dans la mobilisation des recettes. Ça, c'est le vrai problème. Deuxième aspect, c'est comme je venais de le dire, que le problème, c'est qui fait qu'aujourd'hui qu'on puisse reporter certaines dépenses, c'est pratiquement, nous avons aujourd'hui des institutions qui sont budgétivores. Vous avez au moins dans chaque ministère, on ne connaît pas quel est au moins le volume du personnel qui sont affectés dans chaque cabinet de ministres. Nous ne les connaissons pas. Il n'y a pas un nombre limité. Donc les rémunérations sont exagérées, les frais de fonctionnement sont exagérés. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut réellement, qui peut toucher quoi. On ne connaît pas. Ça, c'est le vrai problème. Un autre, c'est ce que je venais d'évoquer. On mobilise peu, mais on engage plus de ressources. La chaîne de la dépense, au niveau du ministère du budget, vous avez les contrôleurs budgétaires qui doivent vérifier si réellement les crédits sont là, ne travaillent pas comme il faut, ils ne fonctionnent pas. Les dépenses sont directement payées au niveau en procédure d'urgence. Vous regardez les statistiques de la Banque centrale. La Banque centrale a l'habitude de publier. Regardons aussi tous les rapports de la Cour des comptes qui les décrit, qui les dit tous les jours que le dépassement est une faute de gestion. On ne comprend pas cette notion. Moi, je pense que pour l'instant, il faudrait que la Cour des comptes puisse jouer également son rôle pour que demain, qu'on sente qu'il y a des personnalités publiques qui gèrent les crédits budgétaires qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont dépassé les crédits qui sont d'ailleurs limitatifs.
Merci Emmanuel Mukundi, député national, membre de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale et professeur à la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kinshasa. Vous allez réagir également à cet auditeur Ali qui nous appelle de Bukavu.
Ali Moutaba Joseph Cicéron, depuis la ville de Bukavu. La faible mobilisation des recettes se justifie carrément et contrôle au sein des services appelés à les mobiliser. Par conséquent, ils se sentent comme des acteurs libres pouvant faire ce que bon leur semble. Pour contrer ces périples de faible mobilisation des recettes qui sont hors portée des attentes, il suffit de renforcer les contrôles au sein des services évoqués. Les cas échéants, les flanquer au dos de la justice s'il a peur que les détournements aient des mises. Merci.
Emmanuel Mukundi.
Oui, merci beaucoup. Avant de réagir à mon frère Ali qui a Bukavu, je voulais d'abord dire quelque chose sur ce que vous avez avancé en disant que est-ce que c'est faux lorsque le gouvernement disait que bon, on aura des recettes, on a fait des grandes recettes et que les experts avaient appuyé ça. Non, c'est sur votre chaîne que nous avons dit, on ne peut pas faire des déclarations comme ça. En fait, l'économie fonctionne en conjoncture et en structure. Ce n'est pas parce que, par exemple, les recettes d'exportation des minerais augmentent et automatiquement vous pouvez crier que nous avons réalisé les recettes. Et nous allons continuer à réaliser les recettes. Non, ce n'est pas ça. Nous avions évoqué à ce moment-là que ces gouvernements font des slogans en économie. Et en économie, on ne peut pas faire les slogans. En économie, il faut être dans le réel. Et Valérie vient de le dire. On ne peut pas tromper. Il faut dire la vérité. En ce qui concerne les recettes-là qui se sont multipliées, mais s'il y avait des recettes en devise, naturellement, les francs congolais ne peuvent pas se déprécier. Ce sont des notions simples que les enfants en économie peuvent vous expliquer. À partir du moment où la monnaie se déprécie, ça veut dire que l'État n'a pas assez de moyens en devise pour pouvoir, n'est-ce pas, appuyer sa propre monnaie, pour pouvoir soutenir sa propre monnaie. Ça, ce sont des mensonges. La vraie vérité, ce que nous vous disons, c'est qu'il n'y a pas de vérité dans la gestion de la chose publique. En commençant par les annonces sur les recettes et aussi la mauvaise affectation de dépenses. C'est ça la cause fondamentale. Quand vous prenez ce que vient de dire Isaac. C'est ça, chaque jour on crie sur le coulage des recettes, on crie sur le détournement. Et le cas échéant, il faut revisiter, il faut rentrer à la réalité. La réalité, le budget de 2023, monsieur le journaliste, ne doit pas dépasser 16 milliards de dollars américains. Alors il ne faut pas, pour des raisons politiques, surtout que nous sommes année électorale, qu'on se camponne en disant nous avons 16 milliards, alors qu'on ne peut pas réaliser 16 milliards-là. C'est faux. Donc tout ce qu'on peut évoquer comme raison, c'est faux. La réalité, comme l'a dit Valérie, il faut crédibiliser, il faut dire la vérité. En ce moment-là, on va vers la vérité et on paye. Et surtout, moi j'insiste là-dessus, parce que les dépenses de rémunération pour l'État, c'est un levier de l'économie. À partir du moment où l'État ne paye pas, c'est toute l'économie qui ne fonctionne pas, parce que le salaire des agents de l'État contribue aux achats sur le marché des biens et services, ce qui contribue aux recettes des entreprises, qui contribue aux investissements des entreprises et à la croissance et au développement. À partir du moment où l'État ne s'est pas payé, pour donner des raisons CENI, d'ailleurs la même CENI s'est plainte, parce que le travailleur, ceux qui ont travaillé à la CENI dans le processus d'enrôlement, ils ne sont pas encore payés jusqu'à aujourd'hui. C'est sur votre échelle que j'ai suivi, partout ailleurs, les agents se plaignent qu'on n'a pas encore payé. Alors c'est quelle CENI qu'on doit imputer cette mauvaise gestion? Non. Donc, comme tout le monde le dit, on ne peut pas chercher des choses ailleurs. Le gouvernement doit dire la vérité. Et cette vérité consistera à dire, nous avons mal proclamé les recettes, nous avons fait le discours sur les recettes et nous avons mal dépensé. Voilà ce qu'il faut dire.
Emmanuel Mukunji, merci. Nous allons terminer l'émission avec vous tout à l'heure. Fidèle Kiangi, président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, a annoncé en début de cette émission, finalement, si je ne me trompe pas, nous rejoint en cours d'émission. Fidèle Kiangi, vous êtes là?
Je suis là, monsieur le journaliste.
Alors, en introduction d'émission, bien évidemment, nous sommes en train d'analyser les raisons qui poussent le gouvernement aujourd'hui à reporter le salaire des agents publics, le salaire de mars à avril. Le gouvernement explique qu'il y a eu une faible mobilisation pour ce premier trimestre de l'année 2023. C'est les raisons qui ont conduit à cette situation. Avant que vous nous donniez votre position par rapport à ce que vous savez comme explication de cette situation, nous allons ensemble écouter ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Chimbulu, et vous nous direz si son point de vue se rapproche du vôtre ou pas du tout.
C'est François Ramos Ntumba de Poudas, la ville de Chimbulu dans la province de Kasai Central. Vraiment, j'ai ri beaucoup lorsque le gouvernement évoque la faible mobilisation des recettes. À mon humble avis, ce qui est à la base, c'est le dépassement budgétaire des institutions publiques de l'État, entre autres la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat, j'en passe. Maintenant, pour lutter contre ce fléau, il faut diminuer le train de vie des institutions. Par exemple, dans notre territoire de Djiba, lorsque les fonctionnaires de l'État auront leur salaire à partir de fin du mois d'avril. Mais ici, à Djibaya, on en aura peut-être au mois de juin. Et les gens qui quittent Djibaya à 120 km pour aller retirer leur salaire à Kananga. Mais ce dépassement, soit ce repos, les institutions publiques de l'État ne sont pas concernées.
Fidèle Kiangi, votre point de vue?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je salue tous les amis qui m'ont précédé. Mais je soutiens totalement la déposition du professeur de l'université à la faculté économique, que le gouvernement doit dire la vérité à la population. En fait, le budget 2023, c'était un budget peut-être électoraliste, parce qu'on voulait démontrer que le Congo, on voulait bien comparer les deux régimes, le régime Kabila, le régime Tshisekedi. On voulait montrer à la population qu'on va aller trop loin. Alors qu'en réalité, ça c'est le naturel, c'est l'arrivée au galop. Nous nous retrouvons à la croisée de chemin.
Mais Fidèle Kiangi, président de l'intersyndicale nationale de l'administration, est-ce que la RDC peut mobiliser des recettes à atteindre 10 milliards, 15 milliards et même faire le double 30 milliards ou pas?
Oui, sauf si on ferme tous les robinets. où l'argent sort sans entrer passer par les trésors publics.
Est-ce que ce n'est pas le problème du Congo? Est-ce que ce n'est pas ce qui est arrivé à un moment donné, les robinets étaient fermés, on a pu suffisamment mobiliser et peut-être en chemin les robinets se sont ouverts et les sommes se sont un peu volatilisées, ou encore l'argent était bel et bien là, mais les dépenses et urgentes et ordinaires et imprévues. Et les recettes qu'on ne peut plus aujourd'hui recevoir des zones occupées par le pays peuvent avoir affaibli ce budget, non?
Oui, c'est vrai qu'il y a eu des recettes non prévues, par exemple. Mais on ne peut pas parler de la guerre parce que la guerre à l'Est, elle est là depuis des années. Ça veut dire que dans le budget 2023, on devrait intégrer la donne de la guerre. Aujourd'hui, nous, fonctionnaires, on nous dit que si on n'a pas augmenté vos salaires, on ne paye pas les salaires à temps, c'est parce qu'il y a cette dotation qui est faite du côté de la guerre de l'Est.
Mmh. Mais ça, c'est ce qu'on vous dit. Mais est-ce que vous avez enquêté pour savoir si c'est pas vrai et que quels sont les chiffres que révèlent vos enquêtes? C'est de ça qu'on veut savoir aujourd'hui.
Ce n'est pas à nous à faire l'enquête. L'enquête, nous ne sommes pas nommés pour ça.
Oui, mais comment pouvez-vous savoir si ce budget était réel ou pas, si les dépenses de sécurité ont augmenté ou pas?
Mais si le budget était réel, le salaire du fonctionnaire n'a pas doublé. Ça veut dire que l'enveloppe salariale est restée celle qu'elle était l'année passée. On devrait payer ça aisément si le budget est réel. C'est ça la vérité. Comment dire, l'année passée, on avait 9 milliards ou 11 milliards de recettes, de budget, de prévisions évidemment. Mais cette année, on est à 16 milliards. Et l'année passée, on n'a pas connu les problèmes de report des payes des agents. Cette année, où on a 16 milliards, on connaît les reports des salaires. Ça signifie quoi? Ça signifie que le budget n'était pas réel.
L'émission Dialogue entre Congolais de ce soir a justement voulu éclairer les raisons qui poussent le gouvernement à reporter le salaire des agents publics de l'État de mois de mars à la fin du mois d'avril. Et nous sommes en train de conclure cette émission. Fidèle Kiyangi, président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, comment pensez-vous que cette situation va se résoudre? Et est-ce que vous avez des pistes de solutions pour que si jamais ça se résout, une telle situation ne puisse se reproduire?
Oui, notre piste de solution est que la gestion soit transparente et qu'on nous dise réellement est-ce que le budget annoncé est réalisable ou pas. C'est ça la solution, dire la vérité à la population. Et nous n'allons pas accepter le report de la paie des salaires des agents. Non, ça on ne fera pas, on n'acceptera pas. Là, le gouvernement a ouvert la voie vers les remous sociaux dans l'administration, ça c'est sûr. Nous n'allons pas accepter.
Alors, nous sommes le 12 avril aujourd'hui.
Non, la paie a commencé, la paie a déjà commencé.
Nous sommes le 12 avril aujourd'hui, vous nous annoncez que la paie a commencé, peut-être qu'elle va s'arrêter.
Les militaires ont été payés.
Vous refusez que le gouvernement puisse reporter une information qu'elle a déjà publiée, comment vous allez faire pour que ce report n'ait pas lieu, et si jamais ce report a lieu, que compte faire l'intersyndicale nationale de l'administration publique?
Si ce report a lieu, nous allons utiliser tous les mécanismes nous reconnus par les lois pour obliger le gouvernement à payer les salaires à des dates convenues. On n'a pas autre chose à faire. Et si le gouvernement ne le fait pas, tout ce que nous allons faire, comme je l'ai dit, nous allons utiliser les mécanismes qui nous sont reconnus.
Vous l'avez déjà dit, merci.
Nous ne pouvons pas accepter.
Merci Fidèle Kiyangi, président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Valérie Madianga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Tout à l'heure, dans son analyse, Emmanuel Mukundi a dit que on arrive à la situation d'aujourd'hui parce que les caisses de l'État sont vides, et elles sont vides au mois de mars, alors que c'est la période où il y a de plus fortes mobilisations pour toute l'année, et qu'il est fort possible que la situation s'empire pour les mois à venir. Selon vous, il y a des pistes de solutions, notamment le collectif budgétaire, et d'autres procédures, mais est-ce que vous pensez que les solutions que vous avez données tout à l'heure pourraient résister, notamment à la prédiction d'Emmanuel Mukundi, c'est-à-dire que les situations seront plus difficiles les mois à venir, et comment il faut faire pour que cette situation ne se reproduise plus?
Oui, lorsque j'évoque le collectif budgétaire, c'est d'abord la première voie parce qu'elle va permettre à ce que l'autorité budgétaire puisse revoir à la baisse les dépenses de l'État. On pourrait ventiler quelles sont les dépenses prioritaires et lesquelles peuvent passer ou lesquelles ne peuvent pas passer. Donc c'est ça d'abord la première des choses. La seconde des choses, c'est comme il faudrait qu'on puisse revenir à la loi. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les dépenses puissent passer par les circuits reconnus par la loi et par aussi d'autres mécanismes de bonne gouvernance des finances publiques dans notre pays. Ça, c'est ce qui est d'ailleurs prioritaire. Il faut aussi qu'on puisse renforcer les contrôles pour qu'on évite des dépenses parasitaires qui interviennent juste au cours de l'exercice budgétaire que le Parlement ne prévoit pas. À ces temps ici, il faudrait que le Parlement joue son rôle de contrôle parce que c'est lui l'autorité budgétaire. C'est lui qui détermine les plafonds, qui autorise les plafonds, je m'excuse. Donc, à ces temps ici, il faudrait que le Parlement puisse accentuer les contrôles pour voir si réellement tout ce que lui a voté est vraiment exécuté conformément
aux recommandations,
aux prévisions arrêtées par lui. Donc, ce sont les recommandations que moi je trouve
pertinentes qui peuvent nous aider à trouver la solution. Merci Valérie Madianga. Emmanuel Mukundi, député national, membre de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale et professeur à la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kinshasa. Je l'ai dit tout à l'heure, Emmanuel Mukundi, vous annoncez l'hécatombe pour les jours à venir. Y a-t-il malgré tout, selon vous, le moyen d'arrêter cette hécatombe? Et même si, par miracle, la situation des caisses de l'État s'améliorait, comment, à l'avenir, on peut faire pour éviter ce genre de situation?
Je vais vous dire, monsieur le journaliste, c'est ça le miracle sur lequel croit le gouvernement. En économie, on ne peut pas croire sur le miracle, on doit croire sur la réalité. Je crois que les prédécesseurs ont déjà donné des solutions. Moi, je vais dire dans les mots clairs, le gouvernement doit dire la vérité.
Vous l'avez déjà dit, hein, mais qu'est-ce que le Parlement, l'Assemblée nationale pourrait faire, parce que Valérie Madianga notamment a fait cette demande, qu'est-ce que l'Assemblée nationale pourrait faire pour améliorer cette situation?
Il a déjà donné la proposition des collectifs budgétaires que le gouvernement doit venir présenter, ça il a déjà dit, je ne peux pas le répéter, mais moi j'insiste que le gouvernement ne peut pas dire le mensonge. Ça, c'est clair. Le gouvernement doit payer. Ne pas payer les salaires, c'est un crime contre l'humanité. Et de deux, le gouvernement doit réduire la tension salariale. Mais, monsieur le journaliste, je vais vous dire qu'il y a des gens ici au Congo qui touchent un revenu d'à peu près 1 million de dollars américains le mois. Et alors qu'il y a des petits fonctionnaires qui touchent 100 dollars et que le gouvernement dise que non, non, je ne peux pas payer parce qu'il y a la guerre à l'Est. Je ne peux pas payer parce que j'ai payé la CENI, alors que la même CENI est en train d'être matraquée par ses propres agents qui sont impayés de mois et de mois.
Merci. Donc, à tous pour votre participation à cette émission. Jean-Noël Mokondo Guimaté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.